VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du lundi 10 avril 2017, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, la police a interdit les manifestations prévues par l'opposition sur l'ensemble du territoire national.
Au Tchad, le mouvement IINA a appelé ce lundi à une manifestation de soutien à Nadio Kaina, coordonnateur de Tournons la Page, arrêté jeudi dernier.
En Égypte, l'état d'urgence décrété pour 3 mois après les attentats à la bombe d'hier contre 2 églises coptes.
Ici à Washington, signaux mitigés de l'administration Trump concernant la suite des événements en Syrie.
Et puis le président Donald Trump a demandé à ses conseillers des options pour éliminer la menace posée par le nucléaire nord-coréen.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, la police a annoncé hier soir avoir interdit à Kinshasa et dans l'ensemble du pays les rassemblements prévus ce lundi à l'appel de l'opposition. Le point avec Jean-Roger Bion.
La marche est interdite car son itinéraire comporte les germes de l'insurrection, a déclaré à l'AFP le colonel Pierre Rombo Mwanamputu, porte-parole de la police congolaise. Il a précisé que cette interdiction concernait l'ensemble du territoire de la RDC. Cet appel à manifester a été lancé par l'UDPS, le parti fondé par l'opposant congolais historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles à 84 ans. Dimanche, son fils Félix Tshisekedi, président du rassemblement d'opposition, a accusé le président congolais Joseph Kabila d'être le principal obstacle au processus démocratique dans ce pays qui traverse une grave crise politique. Sa déclaration intervient 2 jours après la nomination de Bruno Tshibala, un dissident de l'UDPS et du Rassemblement, au poste de Premier ministre par le président Kabila. Cette nomination est une conséquence des tripatouillages du pouvoir, fait au mépris de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre, a encore fustigé dimanche M. Tshisekedi. Des sources gouvernementales et au sein de la majorité interrogée par l'AFP ont au contraire martelé que cette nomination respectait bien l'accord de la Saint-Sylvestre. M. Tshisekedi a ensuite quitté Kinshasa à destination de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, selon l'AFP.
Les organisateurs de la marche, l'UDPS et le Rassemblement ont indiqué qu'ils comptaient marcher jusqu'au palais présidentiel. Nous reviendrons sur la nomination de Bruno Tshibala et les réactions dans la seconde partie de cette édition.
En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a décrété l'état d'urgence pour 3 mois. Après des attentats à la bombe hier contre 2 églises coptes, ces attaques revendiquées par le groupe État islamique ont fait au moins 45 morts et des dizaines de blessés. Le président al-Sissi a ordonné le déploiement de l'armée à travers le pays en appui à la police après ces attentats. Pour une réaction aux attentats anti-coptes de dimanche, Timothée Donangmaï a joint au Caire l'ancien journaliste Chérif Albert.
Je crois que la majorité des Égyptiens de confession musulmane sont très solidaires avec les Coptes, mais ça n'empêche, il y a un fragment de la société qui plus ou moins est neutre, ou bien il adopte la même logique de revanche, parce que les Coptes, ils ont soutenu le coup d'État contre le président islamiste élu, et donc au regard de certains Égyptiens, ils sont en train de payer le prix de ce soutien.
Le président Abdel Fattah al-Sissi a déployé l'armée en appui à la police. Est-ce que cela rassurera les Coptes?
Pour moi, c'est un constat d'échec parce que lors du dernier attentat, il y a presque 4 mois maintenant, contre une chapelle au Caire qui a fait aussi une trentaine de morts, il a refusé de qualifier cela comme un échec des services de sécurité en arguant que le terrorisme touche tous les pays, que c'est plus ou moins normal de frapper au Caire. Ah, je crois que c'est un aveu. Il concède que la police est incapable de protéger les églises. Ça indique aussi que la situation dépasse un peu les moyens des forces de sécurité.
L'ancien journaliste Chérif Albert joint au Caire.
Au Nigeria, les islamistes de Boko Haram ont tué au cours du week-end 8 civils et 5 soldats dans 2 attaques distinctes dans le nord-est du pays. 9 personnes parties de Maïdougouri, capitale de l'état du Borno, pour ramasser du bois de chauffe, ont été attaquées samedi. Une seule a réussi à s'échapper. Et vendredi, une autre attaque avait fait 5 morts dans les rangs de l'armée à une 50aine de kilomètres de Maïdougouri.
La coalition internationale Tournons la page exige la libération de son coordonnateur pour le Tchad, Nadio Kaina, par ailleurs porte-parole du mouvement citoyen IINA. D'après diverses sources, il a été arrêté jeudi par des éléments de l'Agence nationale de la sécurité. Le mouvement IINA a appelé ce lundi à une manifestation de soutien à Nadio Kaina. Timothée Donangmae a joint à N'Djamena Bertrand Solo Gandier, porte-parole ou rapporteur national du mouvement.
Jusque-là, on n'a pas pu avoir accès à lui pour le voir. Est-ce que du point de vue physique, il va bien? Même nos avocats ont tenté en vain, ça n'a pas fonctionné. Donc, nous pourrions vous dire à ce niveau que la situation n'a pas tellement évolué. Il est toujours gardé dans les locaux de l'Agence nationale de sécurité ANS.
Vous appelez lundi à une manifestation en sa faveur, qu'en est-il?
Nous avons lancé ensemble, avant qu'il ne soit arrêté, une journée INA le 10 avril 2017 en guise de protestation contre la mauvaise gouvernance généralisée, l'impunité, l'injustice et tout ce que le peuple tchadien est en train de subir. Et malheureusement, il a été interpellé. Nous avons donné 48 heures au gouvernement de le relâcher purement et simplement. Ou à la limite, qu'il soit remis aux institutions compétentes, que ce soit la justice et autres, afin que le dossier puisse évoluer. Malheureusement, l'Agence nationale de sécurité, qui n'est pas habilitée à arrêter quelqu'un de séquestre, regarde jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de manger là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de boire. Nous disons à la population d'observer strictement la journée que nous avons lancée, de s'habiller en rouge et de montrer au pouvoir du MPS et au président Déby que le peuple est fatigué.
C'était Bertrand Solo Ngandje, rapporteur national du mouvement IINA, joint à N'Djamena.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Suède, des dizaines de milliers de personnes ont participé hier à Stockholm à ce qu'elles ont appelé la manifestation pour l'amour, après qu'un terroriste a usé d'un camion bélier pour tuer 4 personnes et en blesser 15 autres. L'attaque a eu lieu vendredi après-midi sur l'artère piétonne la plus fréquentée de Stockholm. Un Ouzbek de 39 ans, affichant des sympathies djihadistes, a été arrêté. Il était entré en clandestinité pour éviter son expulsion après le rejet l'an dernier de sa demande de permis de séjour. Un deuxième suspect a également été arrêté et placé en garde à vue. On ignore les liens entre les deux individus.
Signaux mitigés de l'administration américaine concernant la suite des événements en Syrie. Le point avec, de nouveau, Timothée Drangmaï.
Pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, le président Donald Trump ordonnera d'autres actions militaires s'il les juge nécessaires. Il n'y a aucune option où une solution politique interviendrait en Syrie avec Assad à la tête du régime, a fait savoir Mme Nikki Haley dans un entretien à CNN dimanche. Nous pensons qu'un changement de régime pourrait avoir lieu, a-t-elle précisé. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson assure de son côté que la principale priorité du président Trump est d'éliminer le groupe État islamique. Une fois cette menace éliminée ou réduite, les États-Unis pourront alors s'orienter plus directement vers la stabilisation de la situation en Syrie, a expliqué le chef de la diplomatie américaine sur la chaîne CBS. Rex Tillerson se rend cette semaine à Moscou avec pour mission de persuader la Russie de revoir son soutien au président syrien Bachar al-Assad. En attendant, et selon diverses sources, les avions de guerre syriens ont repris leurs opérations de bombardement à partir de la base aérienne qui avait été la cible de 5 à 9 missiles américains Tomahawk la semaine dernière.
Et puis le président Donald Trump a demandé à ses proches collaborateurs de lui soumettre des options pour éliminer la menace posée par le nucléaire nord-coréen. C'est ce qu'a déclaré hier son conseiller en matière de sécurité nationale, H.R. McMaster. Dans un porte-avions américain et sa flotte se dirigent vers la péninsule coréenne pour envoyer un message à Pyongyang, a ajouté M. McMaster dans une interview à Fox News. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest revient à la charge au sujet d'une monnaie électronique ou le ICFA annoncé par la Banque régionale des marchés. La BCAO affirme qu'elle n'est associée en aucune manière à ce projet et réclame que la dénomination soit changée pour éviter toute confusion avec sa propre monnaie, de même qu'un démenti de son implication dans cette initiative. L'Afrique du Sud se classe en tête à l'échelle africaine dans le classement des destinations les plus compétitives et 53e sur les 136 pays étudiés à travers le monde, d'après un rapport du Forum économique mondial. Dans la région Afrique encore, l'île Maurice se positionne deuxième devant le Maroc. Comme il y a deux ans dans ce classement de la compétitivité touristique, l'Espagne rafle la première place au niveau mondial, toujours suivie de la France et de l'Allemagne. La Côte d'Ivoire va établir un partenariat académique avec la prestigieuse ESSEC, École supérieure des sciences économiques et commerciales, basée en France. C'est ce qui ressort d'une récente rencontre entre le vice-président ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et le directeur académique de l'ESSEC. L'établissement compte accueillir des cadres ivoiriens, la première économie d'Afrique de l'Ouest francophone, se dit en quête d'un capital humain pour assurer son développement.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec le tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération, le TP Mazembe a pris l'avantage devant la JS Kabylie.
Les Corbeaux se sont imposés face aux Algériens 2-0 à domicile. L'international zambien Nathan Sinkala de la tête a trouvé la faille à l'issue d'un coup franc de Mputu à la 12e minute de jeu. Et c'est en fin de match que Salif Koulibaly a doublé la mise pour Mazembe. La bande à Pamphile Mihayo a ainsi mis fin à une série de 4 matchs, toutes compétitions confondues, sans marquer le moins de buts.
Même score pour le Oroya face à Ittihad de Tanger.
Oui, Idrissa, une victoire 2-0 que les Guinéens devront défendre au match retour. 2-0 également pour l'AS Standard qui recevait les Sud-Africains de Platinum Stars. Pour le reste, à Dolizy, les Léopards ont battu 1-0 Mbaban Swallows du Swaziland. Bonne opération pour les clubs tunisiens. D'abord, le club sportif swazien a fait un grand pas vers la qualification après avoir battu le Rai Club de Kadiogo 2-1 à l'extérieur. Victoire en déplacement aussi pour le club africain qui est allé battre Paul Louis sur la marque de 2-1. A noter aussi la victoire des fils de Rabat 2-1 dans le derby marocain qui l'opposait au Mas de Fès.
Les matchs allés de cette compétition ont démarré depuis samedi.
Oui, et petite victoire des Gabonais de Mounana à Libreville face à la SEC d'Abidjan. Le score 2-1. Notons le nul 1-1 des Malgaches de Snap Sport à Antananarivo face aux Angolais de Recreativo Libolo. Sinon, 0-0 pour les Sud-Africains de Wits et les Égyptiens de Smouha. Victoire de Young Africans Club tanzanien face au Omulidia d'Alger 1-0. Même score en faveur des Ougandais de Kampala City face aux autres Égyptiens, ceux d'Al-Masri. On connaîtra donc les 15 qualifiés pour la phase de poule de cette Coupe de la Confédération à l'issue des matchs retour le week-end prochain. En attendant le match entre les Nigériens de Rivers United et les Rwandais de Rayon Sport reporté d'une semaine.
On fait maintenant le point de quelques championnats africains.
Direction le Cameroun et le Canon de Yaoundé s'offre le Classico en venant à bout de l'Union de Douala 1-0 pour le compte de la 8e journée de la Ligue 1. Un championnat camerounais toujours dominé par l'UMS de Loum, vainqueur en déplacement des Astres de Douala 1-0. Match au sommet également lors de la 5e journée des playoffs en Tunisie. L'Étoile du Sahel et l'Espérance de Tunis se sont quittés sur le score d'un but partout. Les Sang et Or sont toujours leaders au classement. On jouait la 2e journée des playoffs en RD Congo et le Daring Club Motéba Pembe, suite à sa victoire de 2-0 face à Sanga Balende, s'en passe seul de la tête du classement en attendant les autres rencontres de cette 2e journée.
Cyclisme avec le Tour du Togo qui va démarrer demain.
Oui, et la compétition va regrouper les équipes venues du Bénin, du Mali, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la RD Congo, de la France, des Pays-Bas et de la Belgique. Première étape, Lomé-Dangy ce mardi d'une distance de 151 km. La NBA pour finir, les résultats de la nuit avec vous Idrissa.
D'abord, Russell Westbrook d'Oklahoma City a réécrit l'histoire hier en battant l'un des plus vieux records de la NBA, celui des triple-doubles, réussi en une saison. Propriété depuis 1962 du légendaire Oscar Robertson. Il a assommé les Denver Nuggets 106-105 avec ses 50 points, 16 rebonds et 10 passes décisives. Autre résultat, Toronto et New York 110-97, Cleveland et Atlanta 125-126, Dallas et Phoenix 111-124, Houston et Sacramento 135-128, Detroit et Memphis 103-90, Minnesota et LA Lakers 109-110.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Des réactions dans les rues de Kinshasa après la nomination vendredi soir de Bruno Tshibala, ancien collaborateur d'Étienne Tshisekedi, au poste de Premier ministre. Membre de l'aile dissidente du Rassemblement, Bruno Tshibala remplace Sami Badibanga, qui n'aura passé que 3 mois à la primature, mais sa nomination divise l'opinion à Kinshasa. Reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après la nomination de Bruno Tshibala, ceux qui n'ont estimé que l'accord n'a pas été pris en compte.
Bruno Tshibala, il a été exclu de l'UDPS. Quelqu'un qui est exclu de l'UDPS, il ne fait plus partie de l'UDPS, il ne fait plus partie du Rassemblement. Donc, on a compris que là, on n'a même pas tenu compte de l'accord. Ça, c'est une fois de plus, après avoir piétiné sur la Constitution, là, on vient une fois de plus de piétiner sur l'accord. Donc, l'accord de la Saint-Sylvestre n'a plus sa valeur aujourd'hui dans notre pays. Je n'attends rien de Bruno Tshibala. Bruno Tshibala, c'est Sami Badibanga bis. Pour moi, je reste pessimiste. Pendant tout ce temps qu'il fera ici, il n'y aura rien de bon.
Un autre habitant de la ville de Kinshasa est d'avis qu'il s'agit d'un mauvais départ.
Le peuple congolais attendait que Félix Tshisekedi soit nommé comme premier ministre. C'est pas ce que le président de la République a eu à faire. C'est vraiment un sentiment de regret parce que la nomination de Bruno Tshibala comme premier ministre, c'est un non-événement. Il n'y a rien parce que le départ est déjà mauvais. Comment attendre quelque chose d'ici dans ce gouvernement? Parce que le départ est déjà mauvais. Espérons qu'avec ce gouvernement va nous conduire aux élections. Je ne compte même pas. Parce que ce gouvernement, je ne pense pas même qu'en 2017, il y aura des élections avec ce gouvernement. Parce que ce gouvernement ne fait pas mention de l'unanimité auprès de la population.
Des voix s'élèvent déjà au sein du MRL, le mouvement des réformateurs libéraux, un parti de la majorité présidentielle. John Omombo Tokai, au cadre de ce parti, attend de nouvelles figures au sein du gouvernement.
Le MRL salue la nomination de Bruno Tshibala en qualité de Premier ministre, conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Le MRL souhaite que cette fois-ci qu'il y ait de nouvelles figures. C'est ça aussi le sens que l'on peut donner à l'alternance politique. Et nous souhaiterions, bien sûr, qu'il y ait de nouvelles figures et surtout la promotion de la jeunesse. Même si dans une équipe de football, vous pouvez être meilleur, mais vous n'allez pas jouer pendant tous les 100 matchs. Il arrivera un moment où vous serez appelé à céder la place. Donc nous en appelons à la promotion des compétences qui sont internes au sein des partis politiques et nous pensons que cela n'est que justice.
La nomination le Premier ministre a été un soulagement pour les uns et une désapprobation pour les autres. Il y a des ministres qui sont au gouvernement depuis plus de 10 ans. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le Mali a de son côté un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Abdoulaye Idrissa Maïga, qui était avant sa nomination ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Il remplace Modibo Keïta en poste depuis janvier 2015. Le nouveau chef du gouvernement a entamé dès ce dimanche les négociations pour la formation de son gouvernement. Parmi les nombreux défis qui l'attendent, il y a notamment la grogne sociale marquée par la grève illimitée du secteur de la santé et de l'éducation. De Bamako, Kassim Traoré.
Il est avant tout responsable du Rassemblement pour le Mali, RPM, parti majoritaire. Abdoulaye Idrissa Maïga, avant sa prise de fonction, a rencontré les membres du RPM et puis l'opposition. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
Le Premier ministre est venu nous voir et nous a rendu une visite de courtoisie. À sa demande, nous l'avons reçu avec plaisir et nous lui avons demandé que ce ne soit pas la première et unique fois. Nous sommes disponibles pour un dialogue républicain. Ce qui nous a marqué à notre au Premier ministre, ministre notre disponibilité pour discuter de tous les sujets sur la vie de la nation, tout ce qui peut rassembler les Maliens, tout ce qui peut nous unir, tout ce qui peut nous réconcilier, tout ce qui peut faire que le Mali sorte définitivement de la crise. Le Premier ministre a promis de nous consulter chaque fois qu'il y a besoin, d'entamer avec nous ce dialogue que nous souhaitons profond.
Après Oumar Tatamli, Moussa Mara et Modibo Keïta, Ablaye Idrissa Maïga est le quatrième premier ministre de l'ère Ibeka. Souleymane Kone, premier vice-président du parti phare.
Le problème n'est pas une question d'homme. Le problème, c'est un problème de système, de vision. En 4 ans d'exercice du pouvoir, le président Ibeka est dans son quatrième premier ministre avec un premier ministre qui a déjà eu 2 gouvernements. Un premier ministre, pour quoi faire? Pour quelle politique de sécurité? Pour quelle politique sociale? Et vous voyez aujourd'hui que l'ensemble du pays est en grève. Le pays est arrêté. Est-ce que le nouveau premier ministre qui arrive, il est venu pour ça.
Le Mali connaît actuellement un front social en effervescence, avec des grèves illimitées dans le domaine de la santé et de l'éducation. Youssouf Diallo, écrivain.
Jamais été vraiment attendu parce que le Mali est dans une situation presque démobilise. Voilà, apporter un changement à la tête du gouvernement parce que les populations souffrent qu'on peut aller de l'avant. Abla Idrissa, vice-président du RPM et donc du parti présidentiel, ça veut dire qu'il aura les coudées franches pour pouvoir conduire l'affaire du gouvernement. Bon, on espère que c'est un homme très rigoureux, sérieux, travailleur. Mais maintenant, est-ce que dans les conditions que nous connaissons, est-ce que c'est l'homme qu'il faut pour connaître les affaires du gouvernement?
Ancien directeur de campagne du candidat Ibeka en 2013, ministre de l'administration territoriale, puis ministre de la Défense et des Anciens Combattants, certains Maliens préfèrent le voir dans son costume de premier ministre.
Moi, je suis Dramane Kliwale, je suis journaliste au journal Le Pouce. Ablaye Idrissa Maïga n'est plus un inconnu dans le gouvernement. C'est d'appeler le prochain gouvernement à une note sacrée plutôt, une note sacrée autour de l'action gouvernementale, puisque la personne du Premier ministre en lui seul ne peut pas conduire le bateau malien à bon port. Hein.
Le nouveau Premier ministre vient à un moment où tout est urgent au Mali. Souleymane Kone, premier vice-président du parti phare.
Tout est priorité au Mali. Et la première des priorités, c'est d'arrêter la violence. L'insécurité est la première des sécurités. L'insécurité s'entend dans tous les sens, y compris aujourd'hui mettre fin à la grève des enseignants, à la grève des médecins, arrêter la violence dans le pays, les attaques au quotidien, des soldats qui meurent au quotidien, stabiliser le pays. C'est de donner un horizon politique au Mali, une vision politique au Mali, une administration qui fonctionne, pas une administration qui est dans la loyauté plus que dans la légalité.
Après la nomination du Premier ministre, les tractations sont en cours pour la composition de l'équipe gouvernementale dont les membres seront connus ce lundi 10 avril 2017. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burkina Faso, l'insécurité dans le nord du pays a forcé de nombreux travailleurs à fuir le secteur, dont les enseignants sommés par les terroristes d'enseigner en arabe. À l'issue d'âpres négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, ces fonctionnaires ont accepté de retourner à leur poste, mais ils restent sur le qui-vive, même en pleine riposte des forces de sécurité burkinabées dans la région. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
Les menaces terroristes sur les enseignants contraints pour continuer leur travail à cours en arabe ont obligé les syndicats d'enseignants à soutenir leurs collègues qui fuient les zones à risque de peur de se faire tuer. Un état de stress et de peur permanente qui en rajoute à cette psychose dont il est difficile de se défaire, souligne cet enseignant et secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES, Anatole Zongo.
Parce qu'à partir du moment où des djihadistes, les terroristes peuvent déboucher d'un moment à un autre et mettre en exécution donc leur plan macabre. Ça fait que vraiment on est constamment sur le qui-vive. Dès qu'on voit quelqu'un qui est effectivement anti-urbané, on voit des gens qui effectivement ressemblent à des Touaregs, ça fait que c'est vraiment la peur au ventre. On a l'impression justement que c'est une zone un peu poreuse. Parce que chaque fois, ils quittent la partie malienne pour se retrouver dans nos frontières et ils agissent et ils repartent. Donc il va s'en dire qu'on ne peut pas avoir vraiment la tranquillité.
Le ministre en charge de l'éducation nationale était déjà monté au créneau en pleine tournée dans le Nord pour inciter les enseignants à retrouver les classes et à faire confiance au gouvernement. Une assurance réitérée par le ministre en charge de la sécurité intérieure, Timo Compaoré, s'est voulu persuasif.
Vous aurez à le constater, peut-être que vous avez déjà commencé à le constater, et au fil des semaines et des mois à venir, nous allons monter en puissance, non seulement au niveau des renseignements, mais aussi au niveau des moyens permettant aux forces de défense et de sécurité de continuer d'assumer leur mission de défense de notre territoire, de ces populations. Nous allons préférer laisser le terrain parler pour que vous-même vous soyez témoin.
De Kourfayel à Douri, en passant par Diguel et Djibo, les enseignants retrouvent donc leur classe rassurés par les autorités, même si la peur reste permanente, rappelle Anatole Zongo.
Il faut dire qu'avec les mesures prises par le gouvernement, peut-être que les choses vont un peu s'arranger. Parce qu'ils nous ont dit qu'il y aura donc une patrouille à tout moment. Il nous est difficile de dire que les uns et les autres se sentent complètement sécurisés, rassurés. Mais on peut dire que l'État, en tout cas, a fait des efforts. Au regard donc de ces efforts qui ont été consentis par l'État, eh bien, je crois que c'est ça qui a prévalu à ce que donc les gens rejoignent le poste.
Des rares enseignants rencontrés sur leurs préparatifs de retour, aucun n'a voulu se supprimer, mais ont tous laissé percevoir encore quelques craintes. Ces enseignants retrouvent leur classe, conscients que plus rien ne sera comme avant pour encore un certain temps. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En Côte d'Ivoire, le Grand Ménage, une campagne mensuelle contre l'insalubrité à Abidjan, capitale économique de plus en plus sale, commencera le 7 mai. Déjà, dans certaines communes, les riverains s'organisent pour rendre leur quartier propre, comme par exemple celui de Trècheville, où s'est rendue notre correspondante Narita Namasté.
En Côte d'Ivoire comme partout dans les autres pays en développement, l'accès à l'assainissement représente un combat quotidien. Dans la ville d'Abidjan, où vivent plus de 5 millions d'âmes, l'insalubrité ne fait que s'agrandir. L'absence des systèmes d'assainissement des eaux usées et des déchets solides inquiète la population. Cheikh Bakari, imam de la grande mosquée de Trècheville, ne fait pas l'exception.
La propriété, c'est l'un des piliers de la foi. Quand tu vois les caniveaux aujourd'hui, tout s'est bouché, il n'y a pas de poubelle.
Une insalubrité devenue secrétaire à Abidjan, le gouvernement et la population s'engagent à transformer le visage de la capitale économique et lui redonner ses couleurs de perle de lagune à travers une vaste opération dénommée le Grand Ménage. Dans le quartier de Trècheville, précisément à l'avenue 11 et 6, située au sud d'Abidjan, où les riverains ont décidé de prendre leurs responsabilités pour vivre dans un environnement embelli et débarrassé d'ordures. Adou Adjouri de l'ONG AUF.
Il faut dire d'abord que le Grand Ménage est un programme adressé à tous. Et donc nous, en tant qu'une ONG, vraiment nous avons bien voulu aussi ne pas rester dans le silence.
Boto Jean-Roger, agent au maire chargé de la salubrité de la commune de Trècheville, évoque les problèmes liés à la collecte et au transport des ordures.
On parle de la décharge d'Akwedo avec ses difficultés. Une décharge qui n'est plus adaptée, des problèmes de rotation, le camion qui va vers Akwedo met beaucoup de temps à décharger les ordures et à revenir pour d'éventuelles opérations. Donc tout cela influe sur le service de salubrité.
Kaba Diakité accuse les opérateurs économiques de polluer leur environnement, d'où leur engagement.
Ceux qui viennent salir notre commune n'habitent pas ici. C'est des opérateurs économiques qui viennent chercher leur pain et le soir ils rentrent chez eux. Alors il fallait faire quelque chose. Donc nous avons mis ce mouvement. Nous sommes donnés 2 jours dans le mois.
Les habitants de l'avenue 11, avec à leur tête Kaba Adama, mettent un accent sur la sensibilisation.
Nous avons pris un bénévole pour presque 20 ménages. Tous les soirs, nous pensons les sensibiliser pour leur dire prenez soin de votre environnement, dissocier les ordures solides et les ordures liquides à déverser les terrains d'avaloir.
Une initiative qui réveille des souvenirs chez la douane d'âge de Trècheville à Djakaba.
Avant, eux allaient tant. Le quartier, tous les matins, leur premier souci, c'était de nettoyer le quartier. Et maintenant, avec la saleté qu'il y a et que les jeunes aujourd'hui ont pris conscience de l'environnement, ils savent qu'il faut nettoyer et c'est très positif.
La ministre ivoirienne de la salubrité et de l'environnement, Anne-Désirée Ouloto, a annoncé en début de semaine la fermeture de la décharge d'Akwedo qui enregistre de nombreux conflits. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de la dépigmentation volontaire de la peau.
De plus en plus, les femmes africaines et quelques hommes s'éclaircissent la peau pour des raisons esthétiques, en faisant recours aux produits cosmétiques et même à des injections de produits thérapeutiques.
Pour en parler, nous recevrons comme invité le docteur Véronique Kakiesse. Elle est chef du service de dermatologie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Elle nous expliquera les risques liés à la dépigmentation volontaire.
Nous écouterons le témoignage du professeur Mohamed Sité, chef de service de dermatologie au centre hospitalier universitaire de Donka en Guinée-Conakry. Il abordera les questions liées à la régulation des produits éclaircissants.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.